Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Et comme chaque jour sur Europe 1, aussitôt après le flash de 13h...
Plus ou moins, Ferrand, non, le flash de 13h.
Plus ou moins, effectivement, Franck Ferrand nous propose d'aller faire un tour au cœur de l'histoire. Bonjour, cher Franck.
Bonjour, Julia, bonjour à tous. Aujourd'hui, il était très long, mais on peut espérer que demain, il le sera un peu moins, on verra.
À bon entendeur.
Alors, c'est une des stars de l'histoire des France, un de nos trois hommes d'État les plus connus, avec Napoléon et le général de Gaulle, Louis XIV, que les historiens du 19e siècle ont surnommé le roi soleil, et que ses contemporains appelaient, plus justement sans doute, le grand roi, n'en finit pas d'attirer l'attention. Louis XIV, ce sont 72 années d'un règne de gloire et de misère, de petitesse et de grandeur, 7 décennies de pouvoir absolu, dont plus de 5 de règne personnel, pour fasciner certes, mais surtout pour façonner tout un siècle, ce que Voltaire devait baptiser le siècle de Louis XIV, comme il y avait eu le siècle de Périclès et le siècle d'Auguste.
Et pourtant, comme tous les personnages très connus, celui-ci possède aussi ses zones d'ombre.
Oui, c'est logique. Quand on fait beaucoup parler de soi, on suscite forcément des contre-vérités. Alors sur Louis XIV circule un certain nombre d'idées fausses, un grand nombre même, que notre ami Gonzague Saint-Brie a entrepris de rectifier. Il nous expliquera tout cela tout à l'heure. Mais avant ça, j'aimerais vous faire prendre conscience qu'en vérité, ce grand règne n'est qu'une succession de petits.
De 13h à 14h sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand.
À sa naissance, Louis XIV était attendu comme le Messie. Louis Dieudonné venait au monde après près de 23 années d'une union stérile entre ses parents. Or, Louis XIII meurt peu après, au printemps 1643, ce qui fait que son fils aîné règne à 5 ans. Or, il ne mourra que le 1er septembre 1715, à quelques jours de son 77e anniversaire. Dans quelques instants, en compagnie de Christian Bouillet, nous allons du reste revenir et nous attarder sur les premières années du jeune roi. Ainsi, Louis XIV a régné jeune et vécu vieux, ce qui explique ce long règne d'une durée record de 72 ans. C'est quand même plus que l'empereur d'Autriche, François-Joseph, 68 ans de règne, et bien plus que la reine Victoria, 63 ans et demi. Encore faut-il préciser d'emblée que Louis XIV n'a pris en main les rênes de l'État qu'à l'âge de 22 ans et demi. Je ne sais si je dois mettre au nombre de mes erreurs de n'avoir pris d'abord à moi-même la conduite de mon État. J'ai tâché, si c'en est une, de la bien réparer par les suites, et je puis hardiment vous assurer, mon fils, que ce ne fut jamais un effet ni de négligence, ni de mollesse. Ainsi parle-t-il lui-même à son fils dans les mémoires qu'il a dictées à son secrétaire Toussaint Rose. Nous sommes alors en 1661, c'est-à-dire au commencement du règne personnel, peu de temps après cette prise de pouvoir dont Rossellini a fait un film. En vérité, le règne personnel du roi dure donc 54 ans, mais ce ne sont pas 54 ans homogènes et uniformes. Laissez-moi, si vous voulez, en guise de préambule, vous dire à quelle métamorphose le souverain a connu pendant tout ce règne. Vous savez, les Grecs de l'Antiquité avaient recours, pour résumer le destin des peuples victorieux, ils avaient recours à la trilogie Koros, Hubris, Athée, c'est-à-dire satiété, démesure, désastre. Eh bien, je crois qu'on peut dire que cette trilogie vaut pour Louis XIV. Tout d'abord, de la mort de Mazarin en 1661 à la mort de la reine Marie-Thérèse en 1683, il y a ce que j'appellerais les années de gloire. Efficacement secondé par Colbert, le jeune monarque imprime sa marque au royaume et sa volonté à l'Europe. Tout lui réussit. Il assoit l'autorité royale, développe la justice, remporte des victoires à l'extérieur et de nombreuses victoires. Il enrichit la France, il inaugure des manufactures, il fonde des académies. C'est l'âge flamboyant et baroque du reste, des parades et des triomphes, des fêtes et des amours, la Vallière, Montespan, toute une ribambelle d'enfants naturels qu'il fait légitimer, sont, si je puis dire, les à côté galants et sulfureux d'un règne brillant. Mais avec, en plus, cette richesse terrienne, cette puissance démographique et militaire, ce rayonnement artistique et littéraire qui sont le propre de la France. N'oublions pas qu'à cette époque, écrivaient quand même en même temps Corneille, Racine, La Fontaine, Perrault, La Bruyère, que Molière amusait la cour et Lully la faisait danser. Ce fut la satiété, antichambre de la démesure. Car au début des années 1680, tout cela bascule. Le roi a maintenant la quarantaine, il se rigidifie dans la pose du monarque absolu, il est veuf et réépouse en secret la très pieuse Madame de Maintenon qui, relayée par Louvois, fait prendre conscience au roi de ses péchés et va l'entraîner sur la voie d'une politique dévote intransigeante qui prend pour bouc émissaire les protestants d'abord et puis les jansénistes. La monarchie de droit divin qui maintenant est dotée d'une administration lourde, tatillonne, met les provinces en coupe réglée. Elle affronte des coalitions européennes de moins en moins impressionnées par une force militaire, il est vrai, en déclin. Il faut dire qu'on n'a plus ni les Condés, ni les Turennes, etc. Une cour à l'étiquette rigide tourne le dos à Paris, se fixe, j'ai envie de dire, se fige définitivement à Versailles. Le ciel se couvre, une sourde colère anime le peuple. Et vient la troisième période, celle du désastre grec, celle du tournant du siècle, quand le grand roi vieillissant, il a maintenant dépassé la soixantaine, accepte en 1701 la couronne d'Espagne pour un de ses petits-fils et doit faire face à l'extérieur aux misères de la guerre, à l'intérieur à la disette des grands hivers et puis à toutes sortes de complots de palais, à la maladie, à la mort de ses proches, à commencer par celle de ses héritiers successifs. Si l'on en croit la belle-sœur du vieux monarque, la princesse Palatine, la cour de Versailles, ou plutôt celle de Marly, car le roi passe maintenant le plus clair de son temps dans cette royale maison de retraite, la cour est devenue un tripot sans âme, où des ambitieux sans idéal s'agitent dans un climat affairiste et délétère. Voilà la fin obscure du règne de Louis XIV, si différente à tout point de vue de ses débuts qui avaient été tellement solaires. Vous comprenez maintenant que lorsqu'on évoque Louis XIV, ce sont en fonction de la période du règne à laquelle on se réfère, ce sont des réalités bien différentes qui se font jour.
L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand.
Sur Europe 1 de Cambert, nous vous retrouvons Franck avec votre invité Christian Bouillet, historien spécialiste du XVIIe siècle français, auteur notamment du livre Les Enfants Rois chez Pygmalion.
Eh oui, Les Enfants Rois, c'est une très bonne idée de les avoir réunis dans un ouvrage. Christian Bouillet, vous nous présentez ces enfants qui, au lieu de jouer dans l'insouciance de l'enfance, comme c'est le lot de la plupart des individus, vont être confrontés très tôt à leur charge. Ils vont régner. Il y en a eu un certain nombre dans l'histoire de France. Ils ne sont pas très nombreux d'ailleurs, mais qui ont régné tout enfant. C'est évidemment le cas de Louis XIV. Alors vous nous dites, je vous cite, après 23 ans de vie conjugale, Anne d'Autriche met au monde un dauphin destiné au règne exceptionnel que l'on sait. Cette longue attente qui a fort fait jaser à la cour a qualifié la naissance de Louis comme un don de Dieu, d'où ce prénom qu'on lui donne, Dieu donné. On a aussi parlé d'un enfant du miracle pour lequel certains n'hésitent pas à évoquer la décision de Louis XIII de placer le royaume de France sous la protection de la Sainte Vierge en février 1638. On l'a attendu, ce dauphin-là. Hein.
Absolument. Mais il faut dire que le couple royal avait quand même pas mal de difficultés de vie commune.
C'est le moins qu'on puisse dire, oui.
Étant donné que Louis XIII était un personnage un peu lugubre, un peu particulier, que Anne d'Autriche...
Une grande austérité, en tout cas.
Une très, très grande austérité. Ils ont été mariés en 1615. Ils avaient 14 ans. Le mariage, on a prétendu qu'il avait été consommé. Il n'a pas été. Il avait été en 1619. Hein, et c'est Huynh qui était le favori, qui vivait avec celle qui deviendra la duchesse de Chevreuse. Et ils ont forcé le roi et la reine tout de même à avoir une première relation sexuelle.
Alors, si vous voulez, on ne va pas revenir sur toutes les années de cette relation difficile, tumultueuse, éloignée entre Louis XIII et Anne d'Autriche, avec aussi toutes les suppositions qu'on a pu faire sur une paternité, paraît-il, douteuse de Louis XIV. Personnellement, j'y crois pas trop, vous non plus.
Oui.
Mais simplement, disons qu'on a beaucoup prié, beaucoup de faits de pèlerinage, de dons, de vœux pour la naissance de cet enfant qui finit par arriver donc en 1638 à la fin de la vie de son père. Et alors, ce qui est amusant, c'est que Louis XIII, qui est un affectif, on ne dira jamais à quel point cet homme-là vivait dans l'affection permanente. Il avait besoin d'affection. Il ne supporte pas que le bébé, qui est un tout petit bébé, il a 18 mois, 1 an, 2 ans, Louis XIII ne supporte pas que son fils pleure quand il le voit, par exemple. Il dit « J'y mettrai bon ordre, je le trouve fort opiniâtre ». Il se plaint à Richelieu.
Exactement. Ouais. Mais il faut dire que Louis XIII était déjà qualifié d'opiniâtre quand il était jeune.
C'est
donc
vrai.
Il reproduit ça chez son fils. Deuxièmement, c'est que le roi était très souvent à la guerre, il était très souvent absent, et à cet âge-là, entre 2 ans, 3 ans, être absent pendant 3 ou 4 mois, un enfant, il grandit. Alors, le père, bon, il le reconnaît, mais entre-temps, je ne pense pas que Anne d'Autriche lui parlait beaucoup de son père. Elle lui parlait de toute autre chose, et c'est vrai que quand Louis XIII réapparaissait avec son favori Saint-Marc, eh bien, le petit futur Louis XIV, il regardait Saint-Marc, qui était brillant, avec de beaux habits, avec une grande perruque, hein, qui était un personnage exceptionnel, et puis Louis XIII à côté, qui était lugubre, qui était morne, qui était triste, donc il savait bien que c'était son
peur,
père,
en fait.
Mais il préférait aller vers Saint-Marc que vers son père.
Anne d'Autriche est une mère aimante, c'est une mère espagnole, il ne faut pas l'oublier. Hein.
Oui, oui, et elle a attendu longtemps. Mmh. Elle a attendu longtemps, et elle a même
Alors
pensé...
un autre fils, il faut le dire, hein, le
oui,
petit frère de Louis
après,
XIV, Philippe,
après,
qui deviendra
qui
monsieur.
Il est conçu dans la foulée, mmh. Oui, effectivement, puisqu'il naît en 1640. Hein. Anne d'Autriche est une femme qui... désirait des enfants très tôt. Elle a fait quand même 2 fausses couches. Hein. Bêtement, hein, il y en a une, elle courait dans les couloirs du Louvre avec la duchesse de Chevreuse pour aller voir des jeunes gentilshommes qui jouaient aux cartes. Et puis, elle a raté 3 marches. Elle a la première fausse couche, une autre. Bon, il y a eu pas mal de fausses couches. Et le roi, qui va abandonner plus ou moins à ce moment-là, au point de vue affectif, eh bien, finalement, ils vont concevoir le 5 décembre 1637, Louis XIV, qui naîtra un an après, 9 mois après, le 5 septembre 1638.
Il naît à Saint-Germain-en-Laye.
À Saint-Germain-en-Laye, absolument, le 5 septembre à 11h du matin.
Alors, Anne d'Autriche, je disais...
Un petit mot quand même, c'est que pendant l'accouchement, qui a duré quand même pas mal de temps, on voit Louis XIII, il faudra lui dire d'avoir embrassé la reine qui vient d'être libérée. Et pendant l'accouchement, ça se présentait très mal. Et il dit, sauvez l'enfant, pour le reste, vous aurez tout le temps de prier.
Il est assez... C'est un drôle de père.
On voit donc...
Alors Louis XIII est donc un rapport assez difficile avec ce fils. Louis XIV ne se souviendra pas beaucoup de son père finalement, puisqu'il meurt, quand Louis XIII meurt, Louis XIV a 5 ans.
Il y a une scène assez extraordinaire.
Oui.
Le roi va faire baptiser, parce qu'il avait été endoyé à avance, il va être baptisé le 26 avril, avec Mazarin comme parrain.
Parrain, oui.
Et le roi va recevoir son fils le jour de son baptême. Et il lui dit, ben voilà, parce qu'il n'a pas pu assister, il lui dit, comment vous appelez-vous maintenant? Et Louis XIV dit, Louis XIV, mon papa. Il lui dit, pas tout de suite, mais ça pourrait venir.
Oui, c'est-à-dire que pour le pauvre roi qui est très malade, qui même, disons-le, est en train de mourir, entendre son fils qui n'est que dauphin dire, je m'appelle Louis XIV, ça veut dire qu'on le pousse un peu dans la tombe, hein, quand même.
Et par contre, 4 jours plus tard, on conduit le petit roi auprès de son père.
Le futur roi,
dernière image de son père. Il y a le valet de chambre qui est là. Il y a la gouvernante. Et le roi est là, mourant, la bouche ouverte. Et Louis XIV le regarde. Il ressort. Et on lui dit, est-ce que vous garderez un bon souvenir de votre père? Il dit oui. Et voudriez-vous être roi tout de suite? Et Louis XIV dit, non, je ne veux pas. Je préférais me jeter tout de suite dans les fossés du château.
Et tout de suite, dire qu'il a très bien compris ce qu'on veut lui
il
dire.
Il a très bien compris. Il avait 4 ans et demi, mais il avait très bien compris.
Alors, il va être élevé par des précepteurs, comme il convient à un prince qui va devenir bientôt roi. Et lorsqu'il est roi, alors on lui apprend à former ses lettres. Nous connaissons tous, évidemment, les pages d'écriture de Louis XIV, qui sont des documents célèbres de l'histoire
avec
de France.
Avec Debé, qui était celui qui s'occupait d'écriture. Et il y avait d'autres professeurs, d'autres maîtres.
Le métier de roi est bon et délicieux, etc. Hein.
Voilà,
donc, on lui apprend ça. On lui apprend de nombreuses langues. On lui apprend le latin.
Oui,
contrairement à une légende qui a été très tôt répandue par Saint-Simon notamment, Louis XIV a bénéficié d'une bonne éducation. Il ne faudrait pas croire qu'il a été éduqué hâtivement, comme on l'a dit.
Oui, il a eu une bonne éducation, bon, à partir de l'âge de 7 ans, parce qu'avant il était avec les femmes, après l'âge de raison à partir de 7 ans. Il a eu un gouverneur qui était un bon gouverneur, vive le roi. Il a eu un précepteur de Péréfixe qui était un bon précepteur.
Pardon, un Péréfixe de Beaumont
Et il a eu pas mal de maître pour des disciplines particulières. Et donc, il a eu un bon enseignement. Sauf qu'il était le roi. Et tout petit, depuis l'âge de 4 ans et demi, on le faisait venir pour un tédéum, pour recevoir les ambassadeurs, pour recevoir les membres du Parlement. Il était toujours présent à ces choses-là et on faisait son éducation comme ça. Aussi, quand il fallait le mettre devant des pages avec une plume, là, ça l'embêtait un petit peu, hein. Et il a eu une bonne éducation, sauf que il n'aura pas quand même un Bossuet comme son fils ou un Fénelon comme ses trois petits-fils.
Oui, oui, oui.
Même si père et fils, et puis l'autre également...
Père et fils, c'est le nom de son précepteur.
De son précepteur, oui. Mmh. Et puis il y aura un deuxième précepteur à partir de 1652, de Vaillé. Hein. Tous deux vont être de bons précepteurs, mais il faut reconnaître que le roi n'était pas très courageux là-dessus. Parce que il baignait dans une atmosphère où il était en représentation continuelle. On lui expliquait ce qu'il fallait faire. Autrement dit, les potentialités humaines qu'il va développer toute sa vie, il les a non pas acquises en travaillant avec des précepteurs, il les a acquises en représentation continuellement, puis avec Mazarin, avec sa mère, avec tout le personnel qui était autour de lui, et c'est là qu'il est devenu, il a eu acquis le tempérament que l'on connaît à Louis XIV.
Il faut dire, et vous le montrez très bien, que le contexte de cette enfance n'est pas facile du tout, parce que pendant qu'il devient peu à peu, qu'il acquiert l'âge de raison, qu'il comprend, qu'il assiste au conseil, qu'il suit l'exemple de son parrain Mazarin, qui va essayer de lui apprendre la politique et qui d'ailleurs va lui communiquer une part de ce génie politique que l'on connaît dans l'Europe entière. Pendant tout ce temps, peu à peu, la situation se dégrade et l'on voit s'installer une véritable révolution, ce qu'on appelle la Fronde. On devrait dire d'ailleurs les Frondes, parce qu'il y en a plusieurs.
Il y en a deux, oui. Ouais. La Fronde parlementaire et la Fronde des princes.
Des grands, oui.
Alors, il faut dire qu'il y a eu cette belle régence où... Inde d'Autriche a brillé et où tout le monde faisait la fête et ça a versé dans la Fronde. Qu'est-ce que c'est que la Fronde? On était en guerre, il n'y avait pas un sou dans les caisses. Le contrôleur général des finances, Patissier Vidémery, faisait faire des prêts par les gens fortunés au roi. Il se remboursait sur les impôts, sur la taille, sur les autres impôts. Et en 1648, au moment de la Fronde, on avait mangé 3 années des impôts directs et indirects. Donc ça n'était plus possible, ça a éclaté. À partir du moment où on s'est attaqué aux officiers du roi, eh bien, ça ne marchait plus et ils se sont révoltés et ça a été le Parlement qui a pris ça en main.
Avec les humiliations que cela suppose pour le jeune roi qui ne s'en remettra jamais vraiment, et l'on peut penser qu'une partie des grandes mesures qu'il prend au début des années 1660, qui sont en partie des mesures de domestication de la noblesse, sont directement liées à ce qu'il avait vécu pendant cette enfance.
Tout à fait.
Ce qui est très intéressant dans votre ouvrage, Christian Bouillet, dans ses enfants rois, c'est qu'on peut comparer les différentes royautés enfantines, si je puis dire. Ça fait penser au titre de la pièce de Mallarmé sur un tout autre sujet, hein, n'est-ce pas, le prince, la ville dont le prince est un enfant.
Oui.
Non, je dis de Mallarmé, pas
non,
du
pas
tout.
Mal,
de,
oui, oui.
Bon, on le retrouvera tout à l'heure. Je fais appel à la régie, la Lorena.
Monterland, merci. Voilà. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'on peut donc comparer ces règnes, et si on ne prend que les Valois et les Bourbons, on se rend compte qu'en fait, vous avez des rois, que ce soit le pauvre Charles VI, qui plus tard deviendra fou, que ce soit Charles IX, alors, dont on a parlé à ce micro, c'est terrible, l'enfance tellement pénible de Louis XIII, ou l'enfance sinistre, neurasthénique de Louis XV, on a l'impression que celle de Louis XIV est la plus normale, et la plus agréable en quelque sorte. Il faut dire que le roi est d'un bon tempérament, et que notamment, il jouit d'une santé extraordinaire, ça nous y venons dans un instant.
Au cœur de l'histoire sur Europe 1, le récit de Franck Ferrand.
Un récit de Franck consacré maintenant sur Europe 1 à la santé de Louis XIV.
Et oui, le jeune Louis XIV, je viens de le dire, aura été un enfant puis un adolescent de très forte constitution. Les ambassadeurs de Venise, qui déjà s'étonnaient de sa précocité, puisque tout petit, il mordait les seins de ses nourrices, vous savez. Ces ambassadeurs ne cessent de s'extasier sur sa forte ossature et sa grande taille. Son premier médecin, Valot, parlait d'une santé héroïque en dépit de la petite vérole que le jeune souverain a contractée l'âge de 9 ans et malgré plus tard les déboires vénériens qui allaient gâcher sa 17e année. On connaît ses grandes maladies, le typhus exanthématique qui devait le clouer au lit à Calais au moment de la bataille des Dunes en 1658, jusqu'à faire craindre pour sa vie, et puis la rougeole que lui avait passée la reine, son épouse, et puis surtout, alors beaucoup plus tard, en 1686-87 et autres années, malheureusement pour lui, cette fistule anale dont toute l'Europe s'est fait l'écho et qui a fait la fortune du chirurgien Félix de Tassy. Mais en dehors de cela, la santé du roi était florissante. Il était taillé pour vivre 100 ans, écrit Saint-Simon, qui au moment de la mort du roi précise en relatant son autopsie, je cite, « On lui trouva toutes les parties si entières, si saines et tout si parfaitement conformées qu'on jugea qu'il aurait vécu plus d'un siècle sans les fautes dont il a été parlé. » Alors, quelles fautes? Eh bien, c'est justement ce que je vous propose de voir. Madame de Maintenon, un an seulement avant la mort du roi, écrivait encore « On ne s'accoutume point à la santé du roi, c'est un miracle qui recommence tous les jours. » Alors comment expliquer qu'il n'ait pas fait un centenaire, ce roi-là? Et surtout, comment expliquer qu'à feuilleter le très précieux « Journal de la santé du roi », qui est un document incroyable où on a au jour le jour son état de santé, on trouve des décennies durant, à toutes les pages, des malaises, des vapeurs, des vertiges, des troubles de la digestion, des crises de gouttes, de gravelles et j'en passe. Comment l'expliquer? Eh bien, par deux mots, nous disent ceux qui se sont vraiment penchés sur la question, à commencer par le docteur Gagnère au milieu du siècle dernier, pour garer, c'est gnarer, purger, saigner. Le roi aura été constamment, incessamment purgé et saigné pendant tout son règne, ce qui aura eu pour effet de l'affaiblir évidemment et d'affaiblir surtout à petit feu cette constitution initialement tellement forte. Pourquoi ces opérations incessantes? Eh bien d'abord parce que c'était les préceptes des médecins, je devrais dire des diafoirus de l'époque. Et puis parce qu'il fallait bien que la faculté qui était payée à longueur d'année pour s'occuper du roi, il fallait bien que tous ces gens justifient leurs honoraires. Vous savez, plus on soigne le roi, plus on a de raison de se trouver à la cour, au milieu du grand monde, à proximité des honneurs. Louis Bertrand, l'un des grands biographes de Louis XIV, a fait observer qu'en 77 ans de vie, le roi n'avait connu en tout et pour tout que 4 premiers médecins. Et des premiers médecins qui, bien sûr, achetaient leur charge, l'achetaient fort cher et entendaient bien en tirer un maximum de profit. Les 4 médecins en question, ce sont Vautier d'abord, qu'a évidemment fréquenté Christian Bouillet pour son travail, puisque c'est l'époque 1638-1652, puis Valot de 1652 à 1671, c'est lui qui a l'idée de créer le fameux journal de la santé du roi. D'Aquin, le célèbre, terrible D'Aquin de 1671 à 1693. Et puis alors, un personnage resté dans les annales, tyrannique, caractériel, une sorte de roi dans la royauté, Fagon, qui est le médecin de 1693 à la mort de Louis XIV en 1715, puisque c'est lui qui préside à l'autopsie du roi. D'Aquin est le médecin important, si je puis dire, puisque c'est celui qui va devoir affronter les deux plus grosses alarmes auxquelles est donné lieu la santé de Louis XIV, hormis la gangrène qui devait l'emporter à la toute fin. Sa célèbre fistule, donc, en 1686-87, mais aussi et surtout, car en fait les problèmes de santé du roi viennent de là, au départ, ses problèmes dentaires qui commencent en 1676. Car si le roi a la plus solide des constitutions, il faut préciser qu'il avait une mauvaise dentition. La première fois qu'il se plaint vraiment des dents. Il a eu des problèmes dans l'enfance. Mais enfin, la première fois qu'il s'en plaint vraiment, c'est au moment de la campagne de Flandre de 1676 et le premier médecin D'Aquin précise que le roi a eu des douleurs dentaires opiniâtres. Décidément, c'était le mot qu'on employait beaucoup à l'époque. Et D'Aquin avoue qu'il n'arrive pas à soigner ses douleurs. À l'époque, on utilisait de l'essence de girofle, mais l'essence de girofle ne fait rien sur le roi. Alors, on essaie l'essence de thym. Le problème de l'essence de thym, c'est que c'est un anesthésiant puissant, mais que ça colle immédiatement des maux d'estomac et des envies de vomir. Et donc le roi se met à vomir, enfin, etc. Je vous passe les détails. Je sais, l'autre jour, j'ai raconté en détail l'écartèlement du pauvre François d'Amiens et on m'en a voulu. On m'a dit, mais enfin, c'était inaudible, c'était terrible. Alors attention, parce que là, ce qui arrive n'est pas très reluisant non plus. Mais je vais essayer d'être très soft aujourd'hui pour ne choquer personne. Il faut savoir en tout cas qu'à partir de 1678, les dents du roi le font tellement sourire, ce sont surtout les dents du maxillaire supérieur gauche, qu'on est obligé de commencer à lui extraire les dents. Des dents vivantes, évidemment, malades certes, mais vivantes, qu'il faut extraire, alors avec un matériel qui, à l'époque, laissait à désirer, et avec des anesthésiants qui, encore une fois, sur Louis XIV, n'avaient, semble-t-il, qu'un effet très secondaire. Ce qui veut dire que les souffrances du patient sont à la limite de l'exprimable, et lui ne se plaint jamais. Il ne crie, bien sûr, jamais. Le pire qu'il soit capable de dire, c'est « Ah, mon Dieu, ah, mon Dieu », c'est tout. Et on raconte à deux reprises, c'est Daquin qui l'écrit de sa propre main, que c'est le praticien, en l'occurrence le chirurgien qui a été contacté, qui se trouve mal et qui est obligé d'interrompre l'opération et non pas le patient. Vous voyez l'incroyable courage dont fait preuve Louis XIV. Et puis à partir de 1685, tout ça se dégrade vraiment. Pourquoi ? Parce qu'on a, en voulant arracher une des dents du roi, on lui a carrément arraché un morceau du palais, figurez-vous. Et donc ça va créer un trou dans le palais de Louis XIV qui va faire communiquer la bouche avec le nez, ce qui fait que lorsqu'il mange et surtout lorsqu'il boit, le liquide ressort par le nez. Enfin, tout ça est horrible. On est obligé de cautériser au fer rouge. C'est absolument... Alors, on a des pages et des pages de description dans le journal du roi. Et évidemment, ça a été un martyr pour Louis XIV. Attention, on n'est qu'en 1685, 1686. Il vivra jusqu'en 1715. Et vous imaginez dans quelle souffrance. Et vous comprenez surtout à ce moment-là l'enchaînement des choses. Le roi, en partie édenté, amputé d'un morceau du palais, ne mâche plus normalement ses aliments à partir de 1685. Ce qui veut dire qu'il digère mal, segnare, ce qui amène à le traiter pour l'estomac. Il profite mal de sa nourriture, tout ça entraîne des troubles intestinaux. Pourgaré, et là par des lavements incessants qu'on lui prescrit, on appelle ça des médecines à l'époque, on irrite ses muqueuses, on le blesse, et ça va entraîner les fameuses fistules à répétition, segnare, et des régimes délétères, pugnare. La maladie finale, cette gangrène qui s'attaque finalement à l'une de ses jambes, avec tous les abcès dont je vous fais grâce, cette maladie qui entraînera Louis XIV dans la tombe, aux grandes dames des médecins qui dès lors ne pouvaient plus ni saigner ni purger davantage, cette maladie, elle est donc liée indirectement et au départ des problèmes dentaires de Louis XIV. Et pourtant, Saint-Simon et les autres avaient raison, cet homme-là avait l'étoffe d'un centenaire. Pour le rétablissement du roi à l'issue de l'opération de la fistule, Madame de Brinon, de l'institution de Saint-Cyr fondée par Madame de Maintenon, avait commandé un motet à Lully et cela s'intitulait « Grand Dieu, sauvez le roi ». Notre roi soleil à nous est arrivé dans ce studio. Bonjour Gonzague Saint-Brice.
Bonjour.
Avec vous dans un instant, nous allons revenir sur ce motet et sur l'étrange destin qui en a fait l'hymne national britannique.
Franck Ferrand sur Europe 1. Au cœur de l'histoire.
Et avec vos invités, Franck sur Europe 1, l'historien Christian Bouillet. Vous l'avez présenté avant la pause. Gonzague Saint-Brice est avec nous. Il est écrivain, journaliste, historien et auteur de Louis XIV et le Grand Siècle chez Télémaque qui clôture sa trilogie royale.
Et oui, puisqu'il nous avait parlé déjà de François Ier, puis d'Henri IV. Et là, voilà, Louis XIV, on peut dire que ce sont les trois grands rois de la fin de l'Ancien Régime. Bonjour Gonzague. Donc on s'est dit bonjour à l'instant. On vient d'entendre ce motet qui, au départ, est destiné à célébrer la santé recouvrée de Louis XIV. Comment est-ce qu'il a traversé la Manche pour devenir l'hymne de la reine d'Angleterre ?
Ah oui, parce que vous avez très bien dit que 1886 a été l'année de la fistule.
1686.
Et Louis XIV souffre d'une fistule anale depuis le 5 février. Il reste assis sur un coussin, il ne peut même plus travailler. Et le 17 novembre, de retour de Fontainebleau, il a décidé de mettre un terme à cette situation. Ça devient nuisible même pour les affaires du royaume.
Alors pour l'image, oui, bien sûr. Il y a toujours ce problème de l'image chez Louis XIV. Il est en représentation permanente, évidemment.
Donc il décide de se faire opérer. Il convoque ses chirurgiens, Antoine Daquin, Charles-Félix de Tassy, dont vous avez parlé. L'intervention a lieu le lendemain 18 novembre à 8h du matin et dans la chambre du souverain, en présence de son premier médecin Daquin, du ministre Louvois et de Madame de Maintenon. Elle est réalisée sans anesthésie, et là on voit le courage du roi. Félix de Tassy conçoit pour l'occasion un instrument spécial, un bistouri qu'on appelle recourbé à la royale, qu'il introduit le long de la fistule à l'aide d'un écarteur.
Heureusement que je ne voulais pas donner de détails trop...
J'essaye d'être à votre hauteur. Alors le roi fait ce commentaire... « Faites autant d'incisions qu'il faudra, dit le roi à ses chirurgiens, mais tâchez de ne pas avoir à y revenir deux fois. » Et l'opération a réussi. À 9 heures, le roi, qui fait preuve d'un courage remarquable, est sur pied. Figurez-vous que l'après-midi, il monte à cheval, que le soir, il préside son conseil. Et là, il va faire quelque chose qu'il n'a fait qu'une fois dans sa vie. Il décide de prendre un bain. Un bain.
C'est pas une fois, mais enfin très rarement. Ça, hein, c'était
oui,
très rarement.
Parce que là-bas, à la cour, on se méfie beaucoup de l'eau.
Eh oui.
Depuis qu'on a créé le microscope et qu'on a vu tout ce qu'il y avait dans l'eau. Et alors, Madame de Brinon, qui est la supérieure de l'école des demoiselles de Saint-Cyr, écrit un poème. Grand Dieu sauve le roi, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Et puis on demande à Lully de le mettre en musique. Et c'est ce motet merveilleux qui plaît pas trop à Louis XIV. Mais quelque temps plus tard, en 1714, Händel, Georges Friedrich Händel, de passage à Versailles, est émerveillé en écoutant ce motet. Il arrive de l'Est, il va traverser la Manche, et pendant qu'il traverse la Manche, il s'empare de ce motet, si bien que quand il arrive en Angleterre, où il y a son patron...
Il n'y avait pas Internet à l'époque, c'était pratique finalement.
Voilà, exactement, il ne pouvait pas être surveillé. Son patron, c'est Georges Ier d'Angleterre, donc il arrive... Et il joue ça au roi d'Angleterre, qui dit, mais c'est très bien, mais qu'est-ce que c'est, comment ça s'appelle? Ah ben ça s'appelle God Save the King. Et ça deviendra, comme vous l'avez dit, d'ailleurs la ressemblance est hallucinante.
Oui, c'est la même
God
musique.
God Save the Queen, l'hymne national anglais.
Alors vous avez, Gonzague, consacré à Louis XIV un ouvrage, comme d'habitude, c'est-à-dire très personnel, avec énormément de notations, de précisions. Vous nous faites de temps en temps des allers-retours, vous expliquez les choses et vous revenez sur un certain nombre d'idées fausses. J'ai dit par exemple que Louis XIV avait une santé florissante, ce qu'on ne dit pas souvent, c'est qu'il était plutôt grand en vérité.
Alors voyez-vous, c'est très extraordinaire parce que, on nous montre Louis XIV, c'est un petit mec d'1m60, dressé sur ses talons rouges, qui regarde les gens avec mépris. Et en fait, d'où vient l'erreur sur sa taille? Car en vérité, et c'est prouvé, et par les gens de l'époque, c'est-à-dire la Palatine, c'est-à-dire Saint-Simon, c'est-à-dire l'ambassadeur de Venise, car vous avez raison, chaque fois qu'on veut savoir quelque chose, ce sont les ambassadeurs de Venise qui sont de véritables espions. Louis XIV mesurait 1m84. Et alors ça, il faut absolument aller au lieu de l'erreur et de l'erreur et de l'interprétation. Vous allez à Paris, aux Invalides, vous demandez la salle royale et vous allez vous trouver devant l'origine de l'erreur
sur la taille de Louis XIV. La superbe salle des armures, oui.
Qui est l'armure offerte par la République de Venise, qui est une armure de parade et qui mesure effectivement 1m65. À côté de cette armure, vous avez la vraie armure de François Ier à cheval. On sait que François Ier mesurait 1m98. On sait aussi qu'il est resté à cheval pendant la bataille de Marignan, dont je ne me souviens pas très bien de la date, pendant 28 heures à cheval. Donc Louis XIV était grand. Il y a des témoignages au moment de son mariage à Saint-Jean-de-Luz. Les gens le voient de loin,
Louis XIV, oui.
Qui dépasse l'Assemblée.
Mais il suffit de voir alors 1m84, ça paraît grand évidemment, mais il suffit de voir les tableaux de l'époque. On voit bien que le roi domine généralement l'assistance. Hein, enfin, il y a un très grand nombre. Il suffit de se promener d'ailleurs dans les galeries de Versailles pour se rendre compte. Alors en plus, déjà, il est très grand, mais en plus, c'est vrai qu'il est d'autant plus grand qu'il a ces énormes perruques parce qu'il avait perdu ses cheveux très jeune. Voilà. J'ai parlé tout à l'heure de cette typhoïde terrible qui
perd ses cheveux à l'âge de 19 ans.
Exactement.
D'abord, on lui met une perruque à fenêtre parce qu'il a encore quelques petits cheveux. Et puis après, on passe au salon des perruques qui est à côté de sa chambre parce qu'il doit avoir perruque pour la messe, perruque pour la chasse. Et
les perruques de chasse sont beaucoup plus courtes, évidemment. Les grandes perruques de cérémonie que l'on voit généralement sur les tableaux, évidemment, sont ces espèces d'énormes perruques qui sont des monceaux de cheveux, hein, littéralement, qui montent très très haut au-dessus du crâne. C'est son frère, d'ailleurs, qui va mettre ça à la mode parce que son frère, en revanche, Philippe, lui, était relativement petit. Donc, il avait besoin de hauts talons et de grandes perruques. Par ailleurs, vous nous dites, on le présente toujours comme quelqu'un de suffisant, etc. Ce que vous nous montrez et que savent les habitués des mémoires de Sourges, de Dangeau, etc., c'est qu'il était d'une politesse exquise et d'une très grande humilité en public. C'est pas du tout un personnage qui en impose. Au contraire, il en impose par son charisme, mais pas du tout par son comportement.
Et tout à l'heure, vous avez merveilleusement parlé de sa formation. C'est quelqu'un qui s'est fait c'est assez curieux de dire ça, mais ce roi Louis XIV est un self-made man. Il s'est fait tout seul. Il s'est fait en regardant les autres, en imitant ceux qui étaient les mieux. Et d'ailleurs, il y a un truc formidable, c'est que Saint-Simon, quand il le voit à l'hôtel de Beauvais, dit cet homme, s'il n'aurait pas été roi, s'il n'eût pas été roi, il serait resté dans l'histoire à cause de sa splendeur physique et du fracas de ses amours. En soi-même, il était quelqu'un.
Extrait sur Europe 1 de la Galette des Rois, composée par Louis Couperin, Franck.
C'était une fête très répandue et très importante à l'époque, la fête des rois, au moment de l'épiphanie. Alors, on vient d'entendre ces quelques notes, ce joli morceau de clavecin. Il faut dire que le roi adorait la musique d'abord, il vivait en musique, il y avait des musiciens constamment partout où il se déplaçait. Et surtout, il jouait lui-même d'un instrument assez inattendu, Gonzague.
Oui, parce que effectivement, un jeune prince, on lui dit il faut jouer du luth.
C'est un instrument noble, le luth, pour les jeunes gens bien.
Voilà. Oui. Et c'est pas du tout le goût du jeune Louis XIV qui à l'âge de 12 ans décide de jouer de la guitare. Et alors, je voudrais pas le comparer à Johnny Hallyday, mais enfin, il se déchaîne en marquant le rythme par des accords frappés sur les cordes. Et il faut dire que sa mère est espagnole, mais il a ce goût formidable pour la guitare qui est vraiment un instrument des plus populaires. Et c'est impensable pour un roi de jouer de la guitare. Et pourtant, il adore ça, la guitare, parce que d'abord ça accompagne la danse, puisque c'est un danseur prodigieux. Et devant l'obstination du jeune roi dans ce goût, Mazarin dit d'accord, allez, on va faire venir un professeur de guitare qui va venir de Mantova, de la principauté de Mantoue, Francesco Corbetta, le plus grand virtuose de son temps. Et finalement, en 18 mois, voilà que Louis XIV égale son maître et l'instrument va s'installer à la cour de France, au point que plus tard, bien sûr, il y aura tout ce qu'on connaît avec l'œuvre de Robert de Vizet.
Ce qu'il faut dire, Christian Bouillet, c'est que ce jeune homme, Louis XIV, qui a 14, 15, 16 ans, est un jeune homme qui adore la vie, qui brûle la chandelle par les deux bouts, qui aime les arts, qui aime la musique, qui aime jouer, danser. Il va lui-même être le principal personnage des ballets qu'on crée à l'époque à la cour.
Tout à fait.
On a oublié ça parce qu'évidemment, on a surtout l'image, comme le règne a duré plus de 70 ans, on a l'image du vieux monsieur à la fin, qui est devenu pas très rigolo, faut bien le dire. Mais il a été un jeune homme très, très plein de fantaisie, hein, disons-le.
Oui.
Il est non seulement un joueur de guitare.
Non seulement un joueur de guitare et de luth aussi, hein, et il a eu 2 mètres pour ça, mais il adorait danser. Il adorait danser et il a participé à une quantité de ballets. Il faut dire que Richelieu a inauguré la naissance de Louis XIV en montant un ballet à Paris. Donc, il était normal que le roi, après,
oui, c'était
aime
la grande
danser.
Époque du ballet, hein, faut
oui,
dire.
Oui, tout à fait, tout à fait. De même que l'opéra est arrivé après 1643. Bon, mais là, le ballet, c'est vraiment... Il y a des ballets, dès qu'arrive l'automne, une quantité de ballets.
Et puis avec une espèce de vitalité chez ce jeune roi qui est hors du commun. On disait qu'il a une très grande santé, il a une très grande vitalité. C'est quelqu'un qui est pleinement de son temps, Louis XIV. Il ne faut pas l'oublier.
Et surtout, ce qu'il y a de très frappant, c'est que ce n'est pas du tout un mégalo, ce n'est pas du tout un égomaniaque, c'est quelqu'un qui joue collectif.
Et
il
j'aime
joue,
bien l'expression,
il joue
on la
collectif,
retiendra.
Il ne joue pas perso, il joue collectif avec ses ministres, qui sont issus du peuple pour la plupart, mais aussi, comme vous le dites très bien, avec les artistes. Il va visiter Lebrun, peignant la tente de Darius dans son atelier de Fontainebleau. Il s'entretient avec Ardoin Mansart au chantier de Versailles. Il passe de longues heures aux côtés de Lenôtre dans les jardins.
Qui est un ami, Lenôtre.
Hein.
Des rares amis que Louis XIV aura eu finalement. Puisque quand on est roi de France, c'est très difficile d'avoir des amis. Mais Lenôtre, avec Lenôtre, il parlait quasiment sur un pied d'égalité et ils se confiaient l'un à l'autre des choses étonnantes.
Hein. Absolument. Et
j'en parle d'autant plus que Lenôtre va être grandement célébré l'année prochaine puisqu'on va célébrer son tricentenaire en 2013.
Absolument. Et alors aussi, ce qui est merveilleux, c'est, bien sûr, il assiste aux répétitions des premiers opéras de lui. Et puis il observe Lalande composant ses motets. Et puis il aime à éprouver lui-même l'acoustique de la Nouvelle Chapelle.
Alors, le règne de Louis XIV est également, bien sûr, au cœur de votre ouvrage. Vous nous racontez un certain nombre de choses assez étonnantes. Et notamment, vous suivez Colbert dans sa création des grandes manufactures. On est à l'époque du mercantilisme. Hein. C'est-à-dire que le grand principe, c'est d'aller copier partout en Europe ce qui se fait de mieux pour le faire en France et le vendre aux Français, en fait. Hein, pour éviter de faire sortir les devises, tout simplement. Ça devrait nous inspirer à l'époque que nous vivons en ce moment, d'ailleurs.
Et vous le savez, ce qui est extraordinaire, c'est s'il y a tant de livres qui paraissent sur Louis XIV et le vôtre est magnifique. C'est pourquoi tant de livres sur Louis XIV ? Parce qu'en cette période de crise, on a besoin de Louis XIV. Et Louis XIV, effectivement, s'exaspère, comme le faisait Henri IV, que les dames de la cour aillent chercher le luxe à l'étranger. Donc, il fait tout venir en France. Lui-même, ses jabots, il va les chercher à Venise, puisque ce sont des jabots de Burano. Aussi, ce qu'il va faire, il est capable de tout, c'est faire de l'espionnage industriel. Il va enlever les verriers de Venise, de Murano.
Pour les faire venir.
Pour les faire venir pour bâtir sa galerie des glaces. Et pour ça, il est obligé.
Ce sera l'origine de Saint-Gobain, hein, ça quand même, il faut le dire.
Tout à fait. Et la manufacture de Tour-la-Ville que Colbert va faire. Alors, il va leur donner, pour les faire venir, des salaires hallucinants. Deux, il est obligé de leur offrir une protection militaire parce que la direction de Venise est sans pitié pour les traîtres. Et trois, il s'installe à Venise. D'ailleurs, tout Venise est à Versailles puisque après il y aura les gondoles. Et alors, ils vont, ces verriers de Venise qui ne vivent pas très longtemps puisque évidemment à cause de...
Des exhalaisons. Hein.
Voilà. Donc, ils vont participer à cette construction de la Galerie des Glaces, qui est de l'espionnage industriel pur et dur, puisque après, Colbert va tout mettre à la manufacture de Tour-la-Ville.
Alors, Colbert, c'est le grand ministre, évidemment, de cette première partie du règne dont je parlais au début de l'émission. C'est l'homme des manufactures, c'est l'homme du droit qui s'étend partout. Il y a également, vers le tournant du règne, et ça, ce sera plutôt l'apanage de Louvois du reste, la mise en place d'une véritable police. On essaie d'augmenter partout la sécurité, hein, disons-le, notamment à Paris, parce qu'il y avait du travail.
Alors là, vous êtes tout à fait dans le monde contemporain d'aujourd'hui. Parce que ce qu'il y a d'extraordinaire à Paris à l'époque, quand Louis XIV nomme un lieutenant de police qui est l'Araigny, c'est que, en fait, les banlieues chaudes, elles sont dans la ville. Il y a des zones...
La cour des miracles, hein, à l'époque. Hein.
Les cours des miracles. Il y a des zones de non-droit dans Paris... où vraiment il n'y a pas de roi Louis XIV, puisque c'est le roi des voleurs qui tient ça. Et il y a plusieurs cours des miracles, dont celle qui est au Hall. Et l'Araigny, avec un courage assez extraordinaire, donc sur l'ordre de Colbert, dit on va supprimer tout ça. Mais tout le monde a essayé de supprimer tout ça, et personne n'y est parvenu. Et l'Araigny, il s'avance dans la cour des miracles. Attention, il a fait mettre d'abord des sentinelles dans toutes les alvéoles armées pour qu'on ait peur. Et il dit, les cours de miracle doivent disparaître. Demain, à midi, ça doit être terminé. Et d'ailleurs, les 150 dernières personnes qu'on trouvera là iront aux galères. Et c'est comme ça que les zones de non-droit sont arrêtées dans Paris.
Gonzague Saint-Brice, Louis XIV et le Grand Siècle, c'est aux éditions Télémaque et c'est avec la passion habituelle de Gonzague. Bien entendu, merci d'être venu
nous en parler avec autant
de feu. Les enfants rois de Christian Bouillet, c'est édité chez Pygmalion. Alors j'aurais bien aimé qu'on voit si l'enfance de Louis XIV ressemblait à l'enfance de certains autres rois. On se disait pendant la publicité que c'était un peu Charles VIII peut-être, qui est dans le même état d'esprit.
Il faut dire que Louis XIV, c'est les Bourbons.
Et oui, voilà.
C'est un vrai Bourbon. Les autres, c'était des Valois.
Alors, Christian Bouillet, par ailleurs, Louis XIV et la famille royale. Alors là, c'est un ouvrage qui vient d'être publié, qui vient d'être réédité en tchèque. Oui. Et avec le très beau portrait allégorique de Nocré sur la couverture. Et puis, je signale également, au mémorable chez Perrin, dans une présentation de Jean-Christian Petit-Fils, la réédition des mémoires et écrits politiques de Louis XIV, car Louis XIV a dicté lui-même beaucoup de beaux textes. Ça s'appelle tout simplement Le métier de roi. Bonjour Elena Mornin.
Bonjour Franck, bonjour à tous. Alors aujourd'hui avec les experts Europe 1, on passe du côté du jardin. Et puis on va notamment s'occuper de vos plantes, vos plantations qui ont peut-être souffert à cause des intempéries de ces derniers jours. Les experts ont sans doute des solutions pour vous. Puis ils ont aussi des conseils à vous donner pour tout ce qu'il faut faire dans son jardin ou dans sa jardinière, tiens, au mois de novembre. A tout de suite.
Merci Elena. Nous nous retrouvons demain, Julien.
À demain sur Europe 1, fidèle au poste.